Bonjour à tous. En Iran, l'emballement qui continue. Hier soir, des frappes américaines ont visé des bases américaines, des frappes aériennes ont visé les bases américaines en Irak. Et les États-Unis qui ne veulent plus de menaces, c'est ce que dit Donald Trump. Les autres titres, Bastien.
En France, une semaine capitale s'ouvre demain pour la mobilisation contre la réforme des retraites, un mois après le début du mouvement. Deux jours d'action prévus jeudi et samedi. Hier, les manifestants étaient moins nombreux, mais toujours aussi déterminés. Reportage au Mans dans ce journal. Et puis le rallye Dakar est parti tôt ce matin. Au programme cette année, des routes inconnues, beaucoup de bivouacs, une sorte de retour aux sources. Votre invité à 8h20, Eric.
Ce sera Régis Debray pour son essai « Le siècle vert » apparaître jeudi prochain dans la collection Tract Gallimard.
France Inter.
L'escalade n'en finit plus entre Iran et États-Unis. Hier soir, des roquettes et obus de mortier se sont abattus près de l'ambassade américaine en Irak ainsi que sur une base militaire du nord du pays. Dans la foulée, Donald Trump se dit prêt dans un tweet à cibler 52 sites en Iran. Il menace les Iraniens de les frapper plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant, je cite. La dépouille du général Soleimani, tué par un drone américain vendredi, doit être transférée depuis l'Irak vers son village natal en Iran. En Iran, où les cérémonies d'hommage ont déjà commencé. À Beyrouth, Aurélien Colli.
Sans surprise, la pression est montée d'un cran hier soir. Deux attaques quasi simultanées, roquettes contre la base de Balad au nord de Bagdad et tirs de mortier à proximité de l'ambassade américaine dans la zone verte ultra sécurisée de la capitale. Une zone où des officiels irakiens proches de l'Iran étaient rassemblés hier pour une cérémonie d'hommage au général Soleimani, notamment le chef des députés pro-iraniens qui a appelé une nouvelle fois au départ des troupes américaines. Une question qui sera au centre d'une séance extraordinaire du Parlement irakien cet après-midi. Le cercueil du général Soleimani devait lui rejoindre Téhéran dans la nuit, après avoir traversé hier Bagdad, Najaf et Karbala en Irak, accompagné par des foules appelant à la vengeance et à la destruction de l'Amérique. Des scènes qui vont se répéter dans les prochains jours en Iran, où des obsèques nationales seront célébrées demain à Téhéran, avant l'enterrement du général dans sa ville natale mardi. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
La fuite de Carlos Ghosn est injustifiable. Première réaction de la ministre japonaise de la Justice ce matin, une semaine après la fuite de l'ancien patron de Renault-Nissan. Dans cette fuite, deux étrangers seraient impliqués dans le transit via Istanbul, selon la Turquie. Carlos Ghosn avait fui le Japon, où il est poursuivi pour malversation financière.
Ça fait un mois et demi aujourd'hui qu'a été lancée la mobilisation contre la réforme des retraites.
Et la semaine qui arrive s'annonce décisive pour la suite du mouvement. Nouvelle journée de négociations entre syndicats et gouvernement ce mardi. Dans la foulée, deux jours de mobilisation, jeudi et samedi. Hier, ils étaient 3500 selon la police dans la manifestation parisienne à l'appel des unions départementales CGT, FO, Solidaires et FSU. 600 personnes dans les rues du Mans, 20 fois moins qu'au début du mouvement il y a un mois. Alors on est loin des foules monstres, Lila Lefebvre, mais le mouvement prend quand même racine.
Dans le cortège, beaucoup sont des habitués. Eva a participé à toutes les manifestations sartoises depuis le 5 décembre dernier.
Mardi, jeudi, samedi, on est motivés parce qu'on sait pourquoi on lutte. Et puis on n'est pas les seuls, donc tout le pays actuellement est en grève. Donc ça motive.
Au chômage après deux congés maternité, Eva est très pessimiste pour sa retraite. Martine, elle, la touche déjà, mais cette ancienne assistante sociale se bat pour sa vision de la solidarité.
Bon, nous on est retraités, mais nos petits-enfants, c'est catastrophique. Et on sait très bien que quand on rogne sur les régimes spéciaux, tout fout le camp derrière, tout dégringole.
Dans les rues du Mans, ces défilés deviennent habituels. Les voitures attendent pour passer et les commerçants observent. David est aux premières loges. Son café se trouve en face de la maison des syndicats.
Chacun a le droit de défendre ses idées. Bon, bah voilà, ils sont dans la rue, ils sont dans la rue. Tant qu'il n'y a pas de violence ni de casse, tout va bien. S'ils viennent prendre un petit café, on les sert comme on fait avec tous les clients.
David peut se préparer à un nouvel afflux de clients à chasubles et drapeaux, puisque l'intersyndicale sartoise appelle à deux rassemblements jeudi et samedi prochain.
Lila Lefebvre de France Bleu Maine pour France Inter.
La course à la mairie de Paris avec ce choix fratricide.
Oui, le député LREM de Paris, Hugues Ranson, a décidé de soutenir Cédric Villani, candidat dissident du parti de la majorité pour les municipales. Ranson avait lui aussi tenté d'obtenir l'investiture de La République En Marche. Mais selon le député, le processus de désignation dans le parti de la majorité a dysfonctionné. Cela reste tout de même un soutien de poids pour le candidat Villani, Cyril Graziani.
Il ne faisait guère de doute qu'Hugues Rançon rallierait tôt ou tard Cédric Villani. Les deux hommes avaient entrepris des discussions depuis de longues semaines, même s'ils s'étaient affrontés au moment de l'investiture l'été dernier. Après le choix de la REM d'adouber Benjamin Griveaux, Hugues Rançon avait pris ses distances pour s'offrir un temps de réflexion. Le choix du vice-président de l'Assemblée nationale se porte donc sur le mathématicien. Un choix d'adhésion et de cohérence, explique Rançon, qui éreinte au passage Griveaux, le candidat officiel de son parti. Il l'accuse d'opérer une série de débauchages individuels de gens déjà en place. Il faut dire que l'ancien porte-parole du gouvernement avait tenu des propos peu amènes à l'égard de ses ex-adversaires, les traitant notamment d'abrutis. Ce ralliement de Hugues Rançon ne doit donc rien au hasard. Après le rapprochement annoncé avec le candidat écologiste David Belliard, Cédric Villani engrange un soutien qui cette fois risque de fracturer un peu plus La République en marche.
Voilà pour les municipales à Paris. Paris qui se vide de ses habitants. C'est ce que révèlent les résultats du dernier recensement de l'INSEE. 53 095 habitants en moins en 5 ans. Chaque année, la capitale en perd 11 000 en moyenne. Une baisse constatée depuis 2012. 2012, année où Airbnb a choisi d'installer ses bureaux en France. Et ce n'est vraiment pas un hasard, Valentin Boisset.
Depuis 5 ans, Paris perd plus d'habitants qu'elle n'en gagne. Pourtant, le nombre de logements, lui, ne diminue pas dans la capitale. Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie, il y a tout simplement de moins en moins de résidences principales.
Au moment où un bien immobilier est vendu, ce bien, au lieu de rester dans le parc immobilier, soit quelqu'un qui le rachète pour y habiter, soit quelqu'un qui le reloue, eh bien disparaissent du parc immobilier. C'est des investisseurs qui ont des masses d'argent très colossales, qui achètent des appartements et qui, au lieu d'y habiter, le mettent en location touristique parce que ça leur rapporte 6 à 7 fois plus d'argent. Et ça, ce n'est pas normal.
17,5% des logements parisiens ne servent plus de résidence principale. Ils sont vacants et le phénomène inquiète. Il pourrait avoir des répercussions sur la vie quotidienne des habitants de la capitale.
Le risque, c'est une forme d'uniformisation de l'offre commerciale orientée vers les touristes. Et si on veut arriver à maintenir nos bouchers, nos poissonniers, nos fleuristes, nos petits cafés du coin, il faut aussi des gens qui vivent là tous les jours.
Actuellement, dans les grandes villes, il est interdit de louer une chambre plus de 120 nuitées par an. Emmanuel Grégoire aimerait que le Parlement aille plus loin et abaisse ce seuil jusqu'à 60 nuitées pour éviter tout simplement de tenter les spéculateurs immobiliers.
Le reportage de Valentin Boisset.
Un mot de sport avec le Paris-Dakar, le Rallye Dakar et après la polémique, place à la course.
Et ce Rallye Dakar qui est parti de Jeddah en Arabie Saoudite ce matin. Départ des premières motos vers 4h15, une première étape qui va mettre les 557 concurrents à rude épreuve. 752 km au total, dont 319 chronométrés jusqu'à Al-Wajj. Après la controverse sur la question des droits de l'homme dans le pays organisateur, les pilotes attendaient le départ avec impatience. À Jeddah, Guillaume Batin.
Après une dernière édition péruvienne courte et frustrante, les pilotes vont s'attaquer à une terre, ou plutôt un sable inconnu, le désert d'Arabie, grand comme la France. Un raid plus qu'un rallye, de quoi redonner au Dakar un esprit africain, selon l'ancien skieur, ancien pilote vainqueur du Dakar 2006 et aujourd'hui consultant pour France Télévisions, Luc Alphand.
Il y a moins de villes, on va faire beaucoup de bivouac, mais on sera au campement, c'est-à-dire pas à l'hôtel. Et ça va être une sorte de retour aux sources. Après, quand on a des grands espaces avec pas beaucoup de pistes, donc on peut permettre d'avoir une navigation qui soit plus naturelle, avec des étapes qui sont en ligne. Donc oui, on va retrouver des endroits de la Mauritanie, du Sahara. Donc pour des concurrents qu'on a connus, j'allais dire les trois éditions, on va retrouver une sorte de bon retour aux sources.
Stéphane Peter-Ancel fait partie de cela. L'homme aux 13 victoires aime particulièrement cette édition qui s'annonce difficile.
On va partir à nouveau dans l'inconnu et ça, je pense que c'est bien. Ça remet un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, que ce soit les professionnels, les amateurs. Le rôle du copilote va peut-être être encore plus primordial et plus important.
Et la première des 12 étapes est déjà longue de 752 km aujourd'hui, le long de la mer Rouge. À Jeddah, Laurent Macchietti, Guillaume Batin, France Inter.
Et puis en football, hier soir, les amateurs de Saint-Privé ont battu Toulouse, 1-0 en 32e de finale de la Coupe de France. Ce soir, place à un autre petit poussé de la compétition, l'équipe de Lina Montlhéry affronte le Paris Saint-Germain.
Et le journal des sports complet, ce sera dans une heure, à 8h10. C'était le journal de Bastien Munch, le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
avec du soleil pour les régions méditerranéennes, Jean-Michel Golinski.
Absolument, Eric, mais avec tout de même beaucoup de vent, vers 80 km/h pour la Tramontane et même jusqu'à 110 dans la vallée du Rhône. Un ciel également bien dégagé dès ce matin sur tous les massifs, une fois passé de l'altitude de 800 mètres. Partout ailleurs, c'est plutôt le gris qui s'impose en première partie de journée sous forme de brouillard et de nuages bas souvent compacts. En journée, l'évolution sera favorable sur la Bretagne et au sud de la Loire, tandis que sur les régions plus au nord, là, la journée va souvent se terminer comme elle l'a commencé, c'est-à-dire dans une grisaille assez serrée, dans des températures de l'ordre de 16 degrés cet après-midi près de la Méditerranée, mais souvent de 8 en moyenne ailleurs, et parfois d'à peine 5 degrés cet après-midi entre le Dauphiné, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace.